Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là et on est arrivé avec un peu de retard et de nouveau on s'en excuse. Je m'appelle Gaël Wagoum et je suis le pasteur de l'église de Villeparisis, une église qu'on implante depuis 2 ans maintenant. Je suis venu avec Grace, ma femme qui est juste là, et Ruth, ma belle-sœur. Et on est très contents et reconnaissants d'être accueillis ici. Donc, le frère l'a dit tout à l'heure, c'est un texte qui est connu, c'est un texte qui n'a presque pas de secret pour quiconque a déjà ouvert la parole de Dieu, mais comme on sait, la parole de Dieu est comme cette boîte à bonbons, et on prend, on mange des bonbons, et on pense, quand on pense qu'il n'y en a plus, eh ben il y en a encore, ok? Donc on va regarder le texte avec un regard neuf, et on va voir ce que le Seigneur veut nous dire là-dedans. Il est question d'eau. Il est question de soif. OK? Et si vous vous demandez pourquoi Jean a écrit ce texte-là, c'est tout à l'heure on a parlé de des prédicateurs qui prêchent des choses et on ne sait pas exactement si c'est dans la Bible ou pas, et donc je vous encourage à garder vos Bibles ouvertes en Jean chapitre 4 pour bien vérifier que tout ce que je dis est dans la Bible, ok? Et si ce que je dis n'est pas dans la Bible, faut pas faire, faut pas écouter, d'accord? Mais si c'est dans la Bible, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc gardez bien vos Bibles ouvertes en Jean chapitre 4. Si vous vous demandez pourquoi Jean raconte cette histoire, si vous me demandez à moi, je ne saurais pas vous dire, ok? Mais je pourrais juste vous dire ce que Jean lui-même dit. Plus tard, à la fin de son livre, Jean chapitre 20, au verset 30 et 31, il dit pourquoi il écrit tout ce qu'il a écrit. D'accord? Et tout ce qu'on va écouter là aujourd'hui, tout ce que je vais dire, sert ce même but-là. Ok? C'est très bien. Il y a des Bibles qui sont en train d'être distribuées ici. Hein. C'est une bonne chose. Je vais laisser qu'elles soient toutes distribuées. Ok, donc je disais que le but pour lequel Jean écrit ce texte-ci, Jean raconte cette histoire-ci, se trouve dans Jean chapitre 20, les versets 30 et 31. Tout, lorsque vous lisez l'évangile de Jean, c'est pour ce but-ci. Et donc si vous lisez tout l'évangile de Jean et que vous n'en arrivez pas à ce but-là, alors il y a un problème. Il écrit que Jésus a fait plein de miracles, plein de signes miraculeux, mais que tout ce qui a été écrit dans ce livre-ci et dans cette histoire, si on fait partie, a été écrit afin que on sache que Jésus est le Christ et qu'en croyant cela, qu'on ait la vie en son nom. Ok? Donc c'est ça le but de cette histoire aussi, de savoir que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant cela, connaît la vie en son nom. Je l'ai dit, ça parle de soif. Cette sensation de sécheresse dans la bouche produite par un besoin en eau dans l'organisme. Ok? Au sens figuré, c'est un désir avide de quelque chose. On peut avoir soif de plusieurs types de choses. Soif de pardon, soif de justice, soif de paix. Soif de toutes sortes de choses. Le texte parle de soif. Jésus, lui aussi, a soif. Et c'est par cela que le texte commence. Il a beaucoup marché. Il arrive à un puits où il rencontre une femme qui, elle aussi, vient puiser. Cette femme, elle aussi, elle a soif, mais une soif différente de celle de Jésus. Une soif intérieure, encore plus grande, une soif que nous aussi avons, exprimons souvent, ressentons souvent. Une soif en tout cas que le monde connaît. Une soif que le monde ressent. Le genre de soif qu'on essaye d'étancher avec, en allant puiser à toutes sortes de puits dans ce monde. Un peu comme cette femme qui va puiser au puits de Jacob. Nous, on essaie souvent de trouver toutes sortes de puits pour aller boire. Rien à l'extérieur ne peut réellement étancher nos soifs. Rien ne peut étancher la soif de l'homme. Ok? Et c'est ce qu'on va voir dans ce texte-ci. Il est question d'eau vive. D'accord. On va le voir ça en trois points. Premièrement, le premier point, c'est l'eau qui est une occasion. C'est ce qu'on voit dans les versets de 1 à 9. OK? L'eau est une occasion. Dans les versets 10 à 26, on va voir que l'eau qui est une occasion, l'eau est la solution. OK? L'eau est une occasion, l'eau est la solution. Et le troisième point, c'est l'eau vive répandue. C'est la mission. C'est ce qu'on voit dans les versets 27 à 42. On a l'occasion, on a la solution et on a la mission. OK? Et on commence donc avec le premier point, dans les 9 premiers versets. Et ces 9 versets-là plantent le décor, d'accord? Les 9 versets plantent le décor. C'est de cette rencontre extraordinaire. On voit Jésus qui traverse la Samarie pour se rendre en Galilée et il arrive à Sichar. Pendant que les disciples sont allés dans la ville pour chercher à manger, Jésus, lui, il s'arrête au puits. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-ci, le royaume d'Israël est séparé en deux. OK? Il y a le royaume du nord et le royaume du sud. Mais entre les deux, il y a la Samarie. D'accord? Et il faut aussi savoir que il y a une telle animosité entre les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains qui sont considérés comme étant des hérétiques, c'est un peuple, une sorte de peuple hybride. Et donc, ils sont considérés comme hérétiques. Ils n'ont pas la réalité de l'évangile. Ils ne connaissent pas toute la vérité de la révélation biblique. Okay? Et donc, les Juifs détestent ces gens-là. Bon, ils les lui rendent bien aussi. D'accord? Donc, il y a une sorte de guerre entre les Juifs et les Samaritains. Une telle tension que lorsque les Juifs devaient aller du sud vers le nord ou du nord vers le sud, au lieu, on sait en mathématiques, pour ceux qui en font, que on sait que le chemin le plus court, c'est quoi? C'est la ligne droite. OK? Lorsqu'on fait un cercle, on met plus de temps. Et donc, il y avait une telle tension que quand on allait du nord vers le sud ou du sud vers le nord, au lieu d'aller tout droit, les gens esquivaient. Ils allaient longer la côte. Pourquoi? Pour n'avoir rien à faire avec les Samaritains. Mais ici, on voit que Jésus, lui, il dit qu'il veut, il est dit dans le verset 4, il fallait qu'il passe par la Samarie. OK. C'est-à-dire, il y a une sorte de nécessité, mais ce n'est pas une nécessité qui est impliquée par la fatigue. C'est pas parce que Jésus est fatigué qu'il veut prendre le chemin le plus court. C'est pas parce qu'il a soif qu'il veut prendre le chemin le plus court. Absolument pas. Il prend ce chemin-là, il passe par la Samarie parce qu'il a un rendez-vous divin à honorer, ok? Un rendez-vous que lui-même a fixé avant la fondation du monde. Et il a prévu de rencontrer une femme au puits de Sichar, en Samarie. Et quand il passe par la Samarie, c'est cette femme-là qu'il va rencontrer. Au verset 6, regardez, on dit que il était midi. Ok? À midi, le soleil est le plus bas. D'accord? Il est le plus bas et donc il tape très fort. C'était pas l'heure à laquelle les femmes allaient puiser de l'eau. Généralement, les femmes allaient puiser de l'eau très tôt le matin ou plus tard dans l'après-midi, lorsque le soleil est moins fort. Okay? Et c'était d'ailleurs l'occasion de partir en groupe et de se donner des nouvelles. Mais cette femme-ci elle va puiser de l'eau à midi, sous la chaleur, parce qu'elle veut éviter de croiser le regard des autres personnes. Elle ne veut pas elle veut pas entendre les commentaires qu'on fait sur elle. Elle ne veut pas croiser le regard accusateur des autres femmes. Elle n'est pas la bienvenue. Elle ne veut pas, elle a certainement volé le mari d'une des autres femmes. Tout le village connaît sa réputation. Et parce qu'elle ne veut pas qu'on parle sur elle, parce qu'elle ne veut pas croiser ce regard qui lui rappelle ce qu'elle a fait, elle part à midi, lorsque personne n'est sorti. Elle espère aller puiser son eau et retourner chez elle et passer incognito. Jésus a rendez-vous avec cette femme samaritaine. Ça sera l'occasion pour lui d'apporter à cette femme la bonne nouvelle, pas les nouvelles comme les autres femmes auraient pu lui donner si elles étaient parties puiser l'eau ensemble. Jésus va saisir l'occasion pour dire la bonne nouvelle à cette femme. Et Jésus ne va pas l'aborder en disant « Hey, madame, Est-ce que tu sais que tu es une grosse pécheresse et que moi j'ai une bonne nouvelle pour toi? Absolument pas. D'accord? Il n'y a pas du tout de prétention dans ce que Jésus fait. Même si c'est vrai que cette femme est une grande pécheresse. Jésus va plutôt avoir beaucoup de tact. Au verset 7, il va lui dire, donne-moi de l'eau à boire. C'est-à-dire, est-ce que tu peux m'aider? Femme, est-ce que tu veux bien me donner à boire? Il aurait pu dire, femme, j'ai quelque chose pour toi. Et la femme aurait pu dire, non, j'ai tout ce qu'il me faut. Vous connaissez ça, hein? Je sais qu'ici, vous allez beaucoup en évangélisation. Et c'est une phrase qu'on entend très régulièrement lorsqu'on va évangéliser. Et vous dites à quelqu'un, est-ce que vous avez 2 minutes pour parler? Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Okay? Donc, Jésus aurait pu dire à cette femme, j'ai quelque chose pour toi. Et elle aurait pu répondre, j'ai tout ce qu'il me faut. Ou alors, non, c'est bon, je ne veux rien d'un juif. Parce qu'il y a une tension entre ces deux peuples-là. Mais non, Jésus va être plus humble que ça. Ok. En adressant la parole à cette femme, Jésus franchit délibérément toutes les barrières que les êtres humains avaient dressées. Il franchit une barrière raciale. Les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Et lui est juif, elle est samaritaine. Il franchit une barrière culturelle. Les juifs n'utilisent pas les mêmes ustensiles que les samaritains. Vous voyez, à un moment donné, Jean dit que, en effet, les juifs n'ont aucune relation avec les samaritains. Dans l'expression littérale, c'est plutôt que les juifs et les samaritains n'utilisent pas les mêmes ustensiles. C'est-à-dire qu'un juif, un juif ne boirait pas après un samaritain dans le même verre. Culturellement, ça ne marchait pas. Et Jésus franchit encore cette barrière-là. Il franchit la barrière sexuelle même. Culturellement, les hommes ne parlaient pas aux femmes en public. Même quand c'était sa propre femme. C'est-à-dire que là, en public, là, j'aurais pas pu parler à ma femme. On considérait que c'était une sorte de perte de temps. Bon, je m'attendais à ça. C'est triste, hein, ok? Bon, ça va, on n'est plus à cette époque-là. Donc, Jésus franchit même cette barrière sexuelle-là, et il franchit encore la barrière morale. Aucun rabbi, aucun maître religieux n'aurait voulu être surpris en train de parler avec une femme aussi immorale. Ok? Personne n'aurait voulu, aucun chef religieux n'aurait voulu ça. Jésus transgresse toutes les conventions de l'époque. Et c'est ce qui surprend cette femme-là au verset 9. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Dans la parole de cette femme-là, il y a toutes les barrières que les hommes avaient dressées. Tu es samaritain, tu es juif, je suis samaritain, tu es un homme, je suis une femme. Bon, la seule chose qu'elle ne sait pas, c'est que pour l'instant, ce qu'elle ne sait pas, c'est que Jésus est un rabbi. Ok? Et donc, ce premier point-là, il plante le décor et il montre l'eau comme étant l'excuse, d'accord? C'est le moyen par lequel Jésus initie le contact. Le deuxième point, c'est que l'eau vive est la solution. C'est ce qu'on voit dans les versets 10 et 26. Jésus il ne répond pas clairement à cette femme-là. Au verset 10, tout de suite, il va dire, « Si tu savais... » Ok, regardez bien avec moi, verset 10. « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » La soif physique est le point de contact, le point d'entrée. Et maintenant, Jésus retourne la situation. Initialement, c'est Jésus qui demande de l'eau à boire. Maintenant, Jésus retourne la situation sur le plan spirituel pour faire comprendre à cette femme que la personne qui a soif, en réalité, c'est elle. Et la personne qui a de l'eau, c'est lui, Jésus. Ok, si tu savais quel est le don de Dieu. Et ça, en fait, mes amis, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Jésus sait exactement qui est cette femme-là. Et il est déjà prêt à lui donner, à lui offrir le don de Dieu. C'est la grâce parce que c'est une grâce qui ne regarde pas au niveau spirituel. C'est un don qui est fait sans regarder l'arrière-plan de cette femme-là. Il ne regarde pas d'où elle vient. Il ne regarde pas, quelle est la grandeur de ses péchés? Absolument pas. quel que soit l'état dans lequel on arrive, quel que soit l'arrière-plan, quel que soit ce qu'on a fait. Comme cette femme, Jésus dit, voici le don, voici l'amour de Dieu. Généralement, pour marquer le caractère important et vital de l'eau, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'eau, c'est la vie. OK? Vous avez déjà entendu ça? L'eau, c'est la vie. Qui n'a pas encore entendu ça? Qui a déjà entendu? Ah, d'accord, très bien. Bon, si tout le monde l'a déjà entendu, ça veut dire que c'est une phrase, enfin, ça veut dire que c'est un slogan qui est très connu. On dit que l'eau, c'est la vie. Et c'est généralement pour marquer l'aspect important et vital de l'eau. Jésus prend cette image et il dit, moi, j'ai à te donner une eau qui va demeurer sans cesse dans ton cœur. Tu n'auras plus besoin de venir ici puiser. C'est la vie éternelle que je te donne. Jésus dit en quelque sorte à cette femme, j'ai quelque chose pour toi qui est aussi fondamental, aussi nécessaire sur le plan spirituel que l'eau physique l'est sur le plan physique. Ok? Si sans l'eau physique, on meurt, sans l'eau spirituelle que Jésus donne, on meurt aussi. Sans cela, tu es absolument perdu. Jésus va aller plus loin. Regardez le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il est en train de dire à cette femme que l'eau qu'il donne satisfait pour toujours. C'est-à-dire que l'eau, j'ai soif maintenant, je bois, et peut-être dans 2 heures, j'ai encore soif et j'ai besoin d'eau encore. Ok? Jésus dit que l'eau que lui, il donne satisfait pour toujours. On n'a plus besoin d'aller boire ailleurs. On est pour toujours satisfait. L'âme est désormais rassasiée. Jésus parle à la femme comme si, quand il dit que l'eau qu'il donne va remplir, va la rassasier pour l'éternité, et il lui parle comme s'il allait prendre le puits de Jacob auquel elle est venue puiser et le mettre dans le cœur de cette femme-ci. Ok? Il dit que l'eau va couler et jaillir jusque dans l'éternité. Donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus à venir puiser ici. La femme est en train de dire, je veux être satisfaite. J'ai soif. Et je veux être satisfaite. Je voudrais, si seulement je pouvais ne plus avoir à venir puiser ici. Si seulement je pouvais ne plus avoir à sortir et affronter le regard des gens. Et elle dit, je veux de cette eau-là qui peut me remplir, et qui peut me remplir pour l'éternité. Et vous alors, qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux aujourd'hui? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait satisfaire vos cœurs complètement? Qu'est-ce qui pourrait vous procurer cette satisfaction, cette plénitude-là? Et si vous vous dites, ah, si seulement je rencontrais l'homme ou la femme idéale, gentille, belle, accueillante, alors mon cœur serait désormais satisfait. Peut-être que vous vous dites aussi, si seulement je pouvais avoir un autre travail mieux payé dans lequel j'ai un peu plus de reconnaissance, alors mon cœur serait satisfait. Si seulement je pouvais avoir le dernier portable. Si j'ai ça, alors c'est bon, je suis satisfait. Je me sentirais bien, je serais en sécurité. Si je pouvais avoir un peu plus d'argent, alors je serais heureux, je serais heureuse. Mais ce qu'il faut, en fait, mes amis, c'est lever les yeux et regarder à chaque besoin qu'on a. Il y a une personne dans ce monde qui a ce dont nous avons besoin, mais qui n'est cependant pas satisfait. L'argent après lequel on court. Il y en a qui ont cet argent-là, mais qui râlent. Ou en tout cas qui continuent d'aller travailler. C'est une preuve que cet argent qu'ils ont et après lequel on court n'a pas réussi à les satisfaire. Il y en a qui courent après, qui veulent des enfants, une famille. C'est noble, c'est louable, c'est un désir propre, bien. Mais si c'est une famille pour être absolument satisfait de tout, alors on a tort. Parce que nombreux sont ceux qui ont des familles. Celui qui dira « ma famille a comblé tous les vides de mon cœur » n'est même pas conscient du vrai vide qu'il y a dans son cœur. Quelqu'un a parlé d'une pub qui passait à la télévision il y a plusieurs années de cela. C'était une publicité sur les lunettes et on voyait une personne assez déprimée qui disait « j'ai changé de mari, j'ai changé de boulot, j'ai changé de coiffure, j'ai changé de voiture ». Et visiblement, elle était toujours aussi déprimée. Et l'autre personne à côté qui répondait visiblement un peu plus épanouie, « Eh ben moi, j'ai changé de lunettes ». Et une personne à côté qui a changé des choses extérieures dans sa vie, et rien n'a changé, elle était toujours aussi déprimée. Et l'autre personne à côté qui dit avoir juste changé des lunettes et qui paraissait plus épanouie. J'ai bien aimé, moi, cette comparaison. En fait, je ne sais pas si c'est ce que le réalisateur de la publicité voulait montrer, mais moi, ce que je comprends là, et quelque chose que nous pouvons comprendre aussi, c'est qu'il ne suffit pas de changer des choses dans sa vie, d'avoir de nouvelles choses ou de se séparer d'anciennes choses pour être satisfait. Ce qu'il faut changer dans sa vie, c'est sa façon de voir les choses. C'est-à-dire que finalement, c'est du fond de notre cœur que les choses doivent changer. OK? Pour une vraie satisfaction, c'est du fond de notre cœur que les choses doivent changer. Jésus, cette femme, s'il ne sait pas du tout ce qui doit changer en elle, cette femme, s'il ne sait même pas quelle est la soif la plus profonde qu'il y a dans son cœur. Et si je vous demande à vous aussi, est-ce que vous savez, peut-être que vous êtes chrétien et d'autres qui ne le sont pas encore, à vous qui êtes chrétiens, savez-vous quelles sont les soifs qu'il y a dans vos cœurs en ce moment? Et à ceux qui ne le sont pas encore, savez-vous, vous aussi, quelles sont les soifs qu'il y a dans vos cœurs en ce moment? Jésus va révéler à cette femme quel est son problème, quelle est la nature même de sa soif. Regardez, c'est le verset 16. « Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » Bon, déjà, je pense que c'est une phrase qui devrait... Moi, elle m'a fait rire. Okay? Elle me fait toujours rire. Imaginez que je rencontre Tatiana en route et que je lui dise « Va chercher ton mari et reviens ici. » Elle me demandera, mais déjà, d'où tu me demandes d'aller chercher mon mari et qui tu es, hein? Ici, dans la parole de Jésus, il y a une autorité forte. La femme n'ira pas chercher son mari, mais Jésus sait exactement pourquoi il lui pose la question. Jésus sait exactement pourquoi il envoie cette femme-là aller chercher son mari. Va chercher ton mari. Appelle ton mari et comme ça, on va pouvoir parler, on va pouvoir discuter avec lui. Je ne suis pas marié, verset 17. C'est ça le problème de cette femme. C'est ici qu'il y a le problème de cette femme. Je ne suis pas marié. Jésus lui montre qu'elle se trompe toujours sur la nature de sa soif, de son vrai besoin. Jésus a une connaissance surnaturelle de cette femme, comme il sait exactement quelles sont les soifs qu'il y a dans nos cœurs à nous ici cet après-midi. Nous, on arrive à se tromper, mais lui, il sait. Il vient juste d'arriver à Sichar. Il n'est même pas encore entré dans la ville, mais il connaît déjà tout de cette femme. Et il lui dévoile quelle est sa soif. Tu cherches, et lui, sa soif, c'est un besoin de mari. OK? Et on va le voir là tout à l'heure. Jésus dit, tu cherches à étancher ta soif dans des relations amoureuses. Tu as soif d'être aimé. Tu as soif de plaire. Tu as soif qu'on prenne soin de toi. Tu attends tellement de relations amoureuses. Lorsque tu es dans une relation, tu fais peser sur le conjoint tellement d'attentes. Tu mets sur lui une telle pression pour remplir ta soif à toi. Et tu es toujours déçu. Aucun homme n'a pu satisfaire la soif de cette femme-là. Pour ceux qui sont mariés, je pense qu'on le sait, hein. J'aime beaucoup ma femme, mais elle remplit beaucoup de choses dans ma vie, mais cette soif-là, elle ne peut pas. Et si je tente de mettre sur elle toutes les attentes de cette soif spirituelle qu'il y a dans mon cœur, je vais juste la détruire et détruire notre relation. Je serai en train d'aller boire à la mauvaise source. Elle n'a pas dit toute la vérité. Tout ce qu'elle a dit, c'est « je n'ai pas de mari ». C'est déjà un bon début, mais Jésus va lui exposer toute la vérité en détail. C'est-à-dire qu'elle a déjà été mariée 5 fois et l'homme avec lequel elle est en ce moment n'est pas son mari. Je saisis cette occasion, l'occasion de ce texte-ci pour, j'espère, régler cette question-là de concubinage. Ok? Je ne sais pas s'il y en a ici, mais souvent on pense que parce qu'on vit avec quelqu'un, alors on est marié à cette personne-là. Absolument pas. Vous pouvez vivre 50 ans avec quelqu'un, mais si vous n'êtes pas marié, vous êtes juste pas marié. Ok? Cette femme-ci, elle est immorale. C'est une femme qui est d'une vie médiocre, mais elle le sait quand même. Elle sait quand même qu'elle vit avec un homme qui n'est pas son mari et elle sait que de ce fait-là, ils ne sont pas mariés. Et Jésus, d'ailleurs, va le confirmer. Il va dire, oui, l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari, même si tu vis avec lui. Ok? Et donc, s'il y en a ici cet après-midi qui sont dans cette situation, écoutez, ce qu'il faudrait, c'est voir la douceur avec laquelle Jésus aborde les choses ici et ne pas vous sentir jugé. Mais au contraire, en discuter avec les pasteurs de l'Église pour régler cette situation. Saint Augustin, dans ses confessions, disait « Ô Seigneur, tu nous as créés pour toi et nos cœurs demeurent agités jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos en toi. » En pointant du doigt la soif de cette femme, Jésus expose nos soifs à chacun de nous. Et j'espère que vous arrivez à vous identifier vous aussi. On peut passer de partenaire sexuel en partenaire sexuel, de mari en mari, d'ami en ami, d'église en église, d'emploi en emploi. Mais rien de tout ça ne peut combler le vide qu'il y a dans nos cœurs. Qu'est-ce qui se passe? Ces choses-là qu'on idéalise pour pouvoir étancher nos soifs vont devenir des idoles. Ça devient des petits dieux. Ok? Et au lieu de nous apporter satisfaction, nous devenons au service. On se met au service de ces choses-là et on met notre argent là-dedans. On met notre énergie pour servir ces choses. Ces choses détruisent nos familles, détruisent nos relations, détruisent nos propres vies parce que ça devient des idoles. Voilà la soif de cette femme qui est désormais exposée. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Parce que son mari et le mariage et les relations amoureuses étaient devenus ses idoles. Et Jésus, cet après-midi, pourrait dire à quelques-uns parmi nous, va chercher ton argent, cet argent qui est devenu ton idole. Va chercher tes enfants, ces enfants qui sont devenus ton idole. Va chercher ton orgueil, cette fierté qui est devenue ton idole. Va chercher tes connaissances et ton intelligence et amène ça ici. Ces choses-là qui sont devenues ton idole. Va chercher ton église qui est devenue ton idole. Va chercher ton travail qui est devenu ton idole. Va chercher ta capacité à jeûner, à prier, à lire la Bible qui est devenue ton idole. Va chercher ces choses-là dans lesquels tu essaies d'étancher ta soif. Va chercher ça, amène ça là, pose ça là, et je te donnerai l'eau vive. Qui seul peut étancher ta soif, qui jaillira jusque dans l'éternité. Personne ne connaîtra de satisfaction à moins de venir boire à la source où Jésus, que Jésus donne. Même pas l'argent, même pas le travail, même pas la famille, même pas l'église, même pas ses connaissances de théologie. En Jérémie 2, au verset 13, Dieu plaide avec son peuple et il dit ceci, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. » Et c'est tout le drame de cette femme. Elle cherche encore un mari, sachant qu'elle en a déjà eu 5 et aucun des 5 n'a réussi à satisfaire sa soif. Elle cherche encore un autre. Finalement, elle en arrive à se dire, même si c'est pas mon mari, je veux juste un homme. Celui avec qui elle est maintenant, ils sont même pas mariés, mais je veux juste un homme à côté de moi. Jésus met ici en réalité, il met ici face à cette femme la réalité de sa vie. Et face à ce drame-là, face à la soif, à cette soif terrible qu'il y a dans son cœur, face à la citerne d'eau crevassée à laquelle elle essaie de boire et qui ne la rassasie jamais. Et sa réaction va être noble, beaucoup d'humilité, une humilité que j'espère trouver dans cette église ici. En fait, cette femme accepte, elle reconnaît son péché et ses fautes. Elle n'essaie pas de justifier ou d'accuser tout le monde, comme on sait souvent si bien le faire. Elle reconnaît que le problème est au fond d'elle et non pas ses parents. Elle reconnaît que le problème est au fond d'elle et non pas ses copines. Elle sait que le problème, c'est en elle-même et ce n'est pas le village. Elle accepte et elle confesse son péché. Et comment on sait que elle confesse son péché et qu'elle reconnaît son péché? C'est parce que plus loin, elle ira dire au village, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Elle ne dit pas « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait à cause de mes parents, à cause de ma pauvreté, à cause de mon ancien mari. » Non, elle reconnaît que c'est son péché. Ok, mes amis, c'est ça la vie chrétienne, d'accord? C'est la repentance, c'est savoir accepter qu'on a mal fait. Et pas juste le jour où on naît de nouveau. On est chrétien lorsqu'on s'est repenti un jour et que chaque jour encore, on continue de se repentir. On continue de demander pardon à Dieu. Si, je veux dire par là que, si vous cherchez toujours des excuses pour vos péchés, alors vous avez un problème. Je veux dire par là que si vous arrivez toujours à trouver un coupable à votre péché, alors vous avez un problème. D'accord, cette femme-là accepte, elle reconnaît son péché. Maître, je vois que tu es un prophète. Jésus n'est plus à ses yeux un vulgaire inconnu. Il est un prophète désormais. Tu es un prophète. Tu parles de la part de Dieu. Et maintenant qu'elle sait ça, sa soif va se déplacer. Regardez toute la progression qu'il y a ici. Hein. Sa soif va se déplacer. Elle ne veut plus spécialement de l'eau physique, l'eau qu'il y a dans le puits. Maintenant qu'elle est en face, qu'elle a en face d'elle un prophète, elle veut en savoir plus maintenant. Elle veut savoir les questions, la vérité sur des questions spirituelles. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne-là. Et vous, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Qui a raison? Personnellement, je pense que cette femme, si n'est pas en train de dire qui a raison, est-ce que les Juifs ont tort, comme ça je peux aller les chambrer? Non. 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 Je pense que cette femme, si maintenant, la question sous-jacente, c'est où est-ce que je dois aller adorer pour être en règle avec Dieu? Ok? Elle sait que pour être en règle avec Dieu, il faut adorer. Tout ce qu'elle connaît, c'est la religion extérieure qu'on lui a appris. Maintenant, elle connaît, elle est devant Jésus, qu'elle reconnaît être un prophète et qui connaît toute sa vie. Sa conscience est pleine. Tout son péché, le péché qu'elle ne considérait pas avant, et commence désormais à l'écraser. Elle ressent la pression de son péché. Ok ? Maintenant, elle comprend que ce qu'elle avait fait, ça commence à être lourd, ça commence à l'écraser. Elle sait désormais qu'elle a désespérément besoin de Dieu et pour ça, elle a besoin d'aller adorer. Mais où est-ce qu'elle doit aller adorer? Voici la réponse de Jésus au verset 21 et 24. Vous adorez Dieu que vous ne connaissez pas. Nous savons qui nous adorons. Jésus met un accent fort sur l'objet, la personne qui est adorée. D'accord? Il commence premièrement à dénoncer l'adoration et le culte extérieur. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et peut-être, je veux dire que même en tant que chrétien, et c'est un challenge, c'est un défi que je lance à tous les chrétiens de cette église. Vous adorez qui? Est-ce que vous connaissez Dieu? Ok, c'est ça la question qu'il faut se poser. Je ne remets absolument pas en question vos connaissances. Ce que je dis, c'est il faut s'assurer que vous connaissez Dieu. C'est terrible d'adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est limite de l'idolâtrie. Ok, vous adorez qui? Jésus dit à cette femme, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui qu'on connaît. Parce que le salut vient des Juifs, c'est ce qu'il va lui dire. Il dénonce l'adoration, il dénonce l'adoration extérieure qui doit être abandonnée d'ailleurs. Ce que Jésus dit ici, c'est que Gérasim, parce que Gérasim c'était le mont en Samarie, Gérasim ou Jérusalem, ce sont la montagne en Samarie ou la montagne à Jérusalem, c'est de l'adoration extérieure ça, et ça ne remplira pas le cœur, d'accord? Il dit que l'heure vient et elle est même déjà là. Et quand il parle de l'heure, il est toujours en train de parler de l'heure de la croix, l'heure de ses souffrances, l'heure de sa mort. Jésus dit que dès que cette heure-là sera venue, il n'y aura plus besoin d'aller ni à Jérusalem, ni à Gérasim, parce que désormais, cette source d'eau vive qui remplit, qui satisfait nos soifs, sera en nous désormais. À ce moment-là, notre corps pourra être en prison, mais notre esprit pourra adorer le Seigneur. On pourrait être dans le bus et être en connexion parfaite avec Dieu. C'est ce qu'il dit quand il dit que Dieu veut des personnes qui adorent en esprit et en vérité. L'esprit dont il est question, c'est pas spécialement l'esprit de Dieu. L'esprit est en vérité. Vérité, c'est-à-dire dans la connaissance vraie de Dieu, de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dénonce premièrement l'adoration fausse de cette femme-là. D'accord. Donc, si vous voulez être des vrais adorateurs, il faut connaître Dieu dans sa parole. Adorerons en esprit et en vérité, en esprit, parce que ça parle de connexion désormais qui n'a pas besoin d'un lieu. D'accord. L'Église, c'est nous et on adore partout où on est. Cette femme va plus loin. Je sais que le Messie doit venir. Et Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Très rarement dans les Écritures, Jésus parle, Jésus dit clairement comme ça qu'il est le Messie. Même quand il est en procès, il ne dit pas clairement qu'il est le Messie. On va lui dire, est-ce que tu es le Messie? Il va dire, il ne répondra pas clairement. Mais à cette femme-ci, le Messie c'est moi. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Elle est bouleversée par cela. Elle comprend à ce moment-là que le Messie est là devant elle. Et quand elle comprend ça, elle est réconciliée avec elle-même. Son Dieu, elle est réconciliée avec Dieu. Et même avec toute la population, c'est ce qu'on va voir. Parce que à ce moment-là, les disciples arrivent, mais elle part dans le village. Les disciples viennent et elle part dans le village. Elle a essayé d'esquiver le village en sortant à midi pile. Elle a essayé d'esquiver les gens du village, mais désormais, elle a rencontré Jésus le Messie, celui qui satisfait les soifs les plus profondes du cœur de l'homme. Et maintenant que son cœur est rempli, maintenant que en Jésus, elle sait qu'elle a le pardon, sa conscience aussi est désormais soulagée. Elle évitait les villageois. Maintenant, elle va au contact des villageois. Parce que, en Jésus, sa conscience est désormais soulagée. Elle est libre, cette femme-là, maintenant. Elle n'est plus accrochée par son péché. Elle va dans le village. Et elle peut faire face à sa situation. Le contraste est saisissant. OK? Maintenant, elle va aller vers les femmes du village et avant ça, rendez-vous compte, l'eau que le monde, toutes les choses que le monde peut donner, rien n'a réussi à combler le vide dans le cœur de cette femme. Mais ce que Jésus donne à cette femme-là, non seulement remplit son cœur, mais déborde de son cœur et va maintenant se répandre sur les gens du village de Sichar. Elle entre dans le village et j'imagine la scène lorsqu'elle entre. Elle doit entrer et dire « Venez voir un homme ». Et peut-être que les gens du village vont dire « Encore un homme ? Tu en as déjà eu 5. Là, tu as un autre qui n'est même pas ton... Encore un homme ?» Mais non, celui-ci est différent. Celui-ci, c'est l'homme. « Ecce homo », comme Pilate va dire. Quand il veut livrer Jésus, il dit « Voici l'homme, ecce homo ». Jésus n'est pas l'homme comme les hommes qu'elle a eu avant, comme ces hommes-là qui n'ont pas réussi à combler, à satisfaire le vide dans son cœur. Jésus est l'homme, est le Dieu qui s'est fait homme et qui lui satisfait pleinement les besoins de l'homme. Il connaît tout ce que j'ai fait et il m'aime quand même. Il ne me condamne pas. Il ne me rejette pas. Et pendant ce temps, les disciples arrivent. Rendez-vous compte, ils arrivent et ils veulent donner à Jésus à manger. Jésus leur dit non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et cette nourriture-là, c'est faire la volonté de mon Père. Quelle est la volonté du Père de Jésus? C'est de prêcher la bonne nouvelle. C'est d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui ont faim et soif de bonnes nouvelles. C'est d'apporter l'eau vive à toute personne qui reconnaît avoir cette soif-là que les choses du monde ne peuvent pas combler. Et Jésus leur dit, je suis rassasié de cette nourriture parce que Jésus va manger ici entrée, plat et dessert. OK? L'entrée, c'est juste cette femme-là. Le plat, c'est parce que quand cette femme va partir dans le village, il y a une première vague de personnes qui va sortir du village à la rencontre de Jésus. Et ils vont voir Jésus. Jésus, de nouveau, va leur présenter le don de Dieu. C'est ce qu'on a vu au verset 10 tout à l'heure. Si tu connaissais le don de Dieu, Jésus va leur présenter le don de Dieu. Et encore, ils vont être touchés, bouleversés par ce don de Dieu-là. Et ils vont accepter le don de Dieu. Jésus va entrer dans le village, il va rester là 2 jours. Et quand il reste là 2 jours, les gens du village vont dire, au verset 42, « Et il disait à la femme, nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as à rapporter, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. OK, il est le sauveur du monde. Jésus sauve trois fois la femme, ensuite la première vague et quand il rentre dans le village, tout le village et plusieurs personnes dans le village. Il est le sauveur du monde. Voilà la déclaration solennelle de ces Samaritains. Jésus est le sauveur du monde. Ça, c'est une phrase qui aurait choqué tous les Juifs. Que Jésus soit le sauveur du monde. Ça aurait choqué tous les Juifs. Et Jésus veut que ses disciples entendent cette phrase-là. Il est le sauveur du monde. C'est-à-dire que Jésus est aussi venu pour sauver les personnes qu'on ignore, que nous ne pensons même pas pouvoir être sauvées. J'ai une amie qui m'a dit un jour, on a fréquenté ensemble, et elle m'a dit un jour, si on m'avait demandé, on parlait sur Internet, elle m'a dit, si on m'avait demandé d'écrire la liste de 100 personnes qui auraient pu être chrétiens, jamais j'aurais écrit ton nom. J'ai dit, OK. Et on a continué de parler. Et après, elle est revenue sur le sujet et elle m'a dit, « Et si on m'avait même demandé d'écrire la liste de 1000 personnes, jamais j'aurais écrit ton nom. » Et pour les Juifs, c'est exactement ça. Si on leur avait demandé d'écrire les noms des personnes qui peuvent être chrétiens, jamais ils auraient écrit le nom des Samaritains. Et si on avait demandé aux Samaritains d'écrire le nom des personnes qui peuvent être chrétiens, jamais ils auraient écrit le nom de cette femme-là. Mais Jésus a aimé cette femme-là. Jésus, désormais, le nom de cette femme-là est écrit dans le livre de Dieu. Et si vous voulez que votre nom aussi soit écrit dans le livre de Dieu, il faut venir boire à la source qui est Jésus. il est le sauveur du monde. C'est-à-dire qu'à l'instant où Jésus devient notre sauveur, il devient le sauveur du monde. Et il fallait que ses disciples entendent ça. Il leur dit, vous dites qu'il y a 4 mois, c'est dans 4, il faut attendre la moisson. C'est maintenant que la moisson est prête. Levez les yeux. Il dit ça à ses disciples. Et lorsque les disciples lèvent les yeux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les Samaritains descendre de Sichar et venir pour entendre la bonne nouvelle, venir pour recevoir le don de Dieu. Quelle que soit la personne qu'on a en face de nous, et vous-même, quel que soit, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, Jésus vous accueille. Il veut vous accueillir. Tout ceci, mes amis, arrive parce que Jésus lui-même a eu soif et qu'il s'est arrêté au puits de Sichar. Et c'est pas la dernière fois qu'il aura soif. En Jean chapitre 19, alors qu'il est crucifié, Jésus dit « j'ai soif ». Il dit « j'ai soif » pas simplement parce que la crucifixion provoque une soif intense. Il dit « j'ai soif » pas simplement parce que l'exposition sur cette croix en plein midi provoque une soif intense. Mais il dit « j'ai soif de la soif de ce monde ». J'ai soif de la soif que le monde connaît parce qu'ils ne sont pas liés à la source. Ils ne connaissent pas la source. Et au fond, quand il dit « j'ai soif », il est en train de s'identifier au péché des hommes, il s'identifie au péché de cette femme-là, il s'identifie au péché des Samaritains et il s'identifie à nos péchés, à nous aussi, à nos maris. Lorsqu'il a dit à cette femme « va chercher ton mari », il s'identifie à nos péchés quand on fait des choses, nos idoles. Jésus dit « j'ai soif » parce que il dit « désormais je suis coupé de la source d'eau vive pour que vous n'ayez plus jamais besoin d'être coupé, pour que vous ne soyez jamais coupé de la source d'eau vive ». Lorsque Jésus dit « j'ai soif », il a soif pour que nous soyons rassasiés. Il a soif parce qu'il prend sur lui nos péchés et qu'il se sépare de Dieu pour que nous soyons saints aux yeux de Dieu et que nous soyons désormais connectés à Dieu. Il a soif pour que, en tant que chrétien déjà, qu'on quitte ces choses dans lesquelles on cherche une identité nouvelle, dans lesquelles on cherche une satisfaction nouvelle, et qu'on revienne trouver pleine satisfaction en lui, par lui. Il dit qu'il a soif pour que chacun de nous parte, ou alors commence dès maintenant à penser à une personne à qui on se dit souvent, lui ne croira jamais en Jésus. Vous savez, mes amis, Jésus ne dépense pas plus d'énergie pour sauver un grand pécheur qu'un petit pécheur. C'est la même énergie qui est dépensée. Et cette énergie-là, c'est l'énergie de la croix. C'est la même croix pour le grand pécheur et pour le petit pécheur. Et maintenant, est-ce que je peux juste vous redemander de quoi avez-vous soif? Est-ce que je peux juste vous rappeler que la soif, chacune de nos soifs peuvent être comblées en Jésus? Est-ce que je peux juste appeler les personnes qui ont soif et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais fait le pas de chercher en Jésus l'eau qu'il faut pour leur vie, cette eau-là qui jaillit jusque dans l'éternité? Si c'est votre cas, je vous en prie, ne partez pas. Discutez avec les pasteurs, ok? Et même si vous êtes chrétien et que vous avez soif d'autre chose et que vous cherchez ailleurs, discutez encore avec les pasteurs et je vais prier. Dieu notre Père, merci parce que c'est en Jésus que nous avons tout ce qu'il faut pour notre vie. Merci Seigneur parce que c'est lui qui comble nos cœurs. Merci Père que tu connais nos péchés, tu connais... Si à nous tu disais, va chercher ton mari, va chercher tes idoles, on ramènerait tellement de choses devant toi, Père. Et je prie pour que, s'il te plaît, Seigneur, que tu pardonnes nos péchés, que tu amènes dans nos cœurs, tu mettes dans nos cœurs cette eau-là qui coule jusque, qui jaillit jusque dans l'éternité, Seigneur. Que tu nous donnes de voir, de trouver en toi cette pleine satisfaction, ce que le monde ne sait pas donner, ce que le monde n'a pas, mais ce qu'il y a en toi et en toi seul. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen.